Utopie.
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 Pluriel.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle, le podcast de la turbine.
La turbine.
La turbine.
Le podcast de la turbine.
Partir à la rencontre de celles et ceux qui vivent en utopie, qui la pensent, l'inventent et la déclinent au pluriel. Artistes, philosophes, urbanistes, écrivains, laissons la parole à celles et ceux qui ouvrent l'horizon de futurs désirables, aux faiseurs d'imaginaires qui explorent d'autres possibles. Aucune carte du monde n'est digne d'un regard, si le pays de l'utopie n'y figure pas. Oscar Wilde.
Utopie plurielle, le podcast des faiseurs d'imaginaires, La Turbine, épisode 6. Au cours des précédents épisodes, nous avons rencontré des artistes, des chercheurs, des chercheuses, des entrepreneurs et entrepreneuses, des femmes et des hommes avides d'expérience qui incarnent des utopies humanistes, la tête dans les étoiles et les deux pieds dans la terre. Ils et elles ont pour point commun d'être au cœur d'aventures collectives et de croire en la force de leurs rêves pour transformer le réel. Avec notre invité du jour, nous nous penchons sur la force des collectifs dans les transitions sociétales et aux individus qui les composent. Des individus qui prennent soin de leur écologie intérieure et occupent leur juste place pour mieux révéler leur plein potentiel et contribuer ainsi à la dynamique collective de manière puissante et joyeuse. Nous allons aborder la question du choix, celui de la paix intérieure et extérieure, de l'utopie d'être heureux et heureuse ensemble. On va parler aussi d'écologie, de soirage. Bonjour Élodie Parent-Riquet.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice d'Inspire for Transitions, facilitatrice de dynamiques collectives inspirantes et écologiques, coach, conférencière et hypnothérapeute clinicienne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, deux petites questions rituelles qui ouvrent chacun des entretiens de cette série. C'est une double question. Quelle utopie avez-vous abandonnée et quelle utopie poursuivez-vous ?
L'utopie que je poursuis, c'est un monde où chacun incarnerait le soirage que nous propose Gandhi. Soirage, ça veut dire soi, S-O-I, et rage pour briller, gouverner. Et c'est un monde où chacun pourrait incarner, briller sa lumière intérieure. Et puis, il y a cette notion de gouvernance que je trouve particulièrement intéressante dans le soirage. C'est l'idée d'être en gouvernance de soi-même, d'être son propre souverain. Alors voilà, c'est ça le monde dont je rêve, où chacun pourrait accéder à ça, être son propre souverain, et ainsi de pouvoir... en brillant sa lumière intérieure, devenir la plus belle contribution vers des modèles de société qui croient en beauté, en éducation, en santé, en qualité de relation à soi-même, aux autres et à la nature. Voilà mon utopie.
Et l'utopie que vous avez abandonnée, s'il y en a une ?
Il y en a une. Peut-être qu'un jour je la reprendrai. J'ai arrêté de croire en un monde où la violence aurait complètement disparu, même si je continue d'y œuvrer.
Merci Élodie. Donc on va en parler un petit peu plus de votre parcours qui est très riche et pluriel surtout, qui vous a amené à la fois de l'ONU à l'Agence française de développement, l'AFD, à l'accompagnement du leadership et de l'innovation, en passant aussi par l'hypnothérapie et aujourd'hui la création d'une formation de facilitation écologique qui s'appelle Bloom. Finalement, accompagner ou initier des actions transformatrices, respectueuses et harmonieuses, semble être votre mission, votre pourquoi. Peut-être vous y voyez peut-être un autre fil directeur dans ce parcours. Qu'est-ce qui vous meut finalement ?
Ce qui me met en mouvement et ce qui m'a toujours mise en mouvement, c'est cette joie que je ressens quand je suis dans un collectif et que je perçois que chacun est à sa juste place, y compris moi, et qu'on a ensemble finalement posé les conditions pour activer notre plus juste potentiel, notre plus haut potentiel, et de faire qu'ensemble, dans la joie et la bonne humeur, dans le plaisir de se retrouver, parce que ce vécu de ce temps collectif est une source pour chacun aussi d'apprentissage sur soi, va nous permettre de créer quelque chose de plus grand que nous.
Et du coup, ce parcours, quelle histoire vous racontez avec vos pérégrinations diverses et variées, même qui vous ont emmené loin de la France d'ailleurs ?
Oui, ben j'étais en quête, en soif de savoir, de trouver mon métier. Quand j'avais 21 ans, j'étais en école de commerce et après un premier stage de commercial qui m'a un peu déprimée, il faut le dire, je me suis retrouvée en échange universitaire à Montréal, à Concordia, Et là, j'ai découvert un univers. C'est là que j'ai plongé dans le monde du développement international. J'ai commencé à prendre des cours de sciences politiques et j'ai commencé à percevoir ce champ extrêmement vaste de la lutte contre la pauvreté, de la justice sociale, des droits de l'homme. Et donc, ça a été un véritable plongeon. Et de fil en aiguille, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est de donner le meilleur de moi. Et j'ai pu aller dans un premier stage en ONG, d'abord de microfinance, qui a été mon premier amour. Je travaillais 10 ans sur l'accès aux services financiers pour les populations les plus pauvres, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Et donc, dans ce parcours-là, où je suis arrivée à l'Agence française de développement, d'abord au Maroc, sur un poste où j'ai travaillé sur la microfinance aussi. De fil en aiguille, je suis revenue à Paris, où j'ai pu, pendant 7 années, m'impliquer dans ce champ-là, de pouvoir développer l'accès à ces services financiers, à ces populations les plus pauvres et majoritairement féminines. Et ça a été pour moi une expérience fondatrice, initiatique, dans le sens où pendant ces années-là, j'ai eu le sentiment de ramer à contre-courant en permanence. J'ai eu le sentiment d'apporter des innovations dans un système qui est posé avec ses règles, ses modes de fonctionnement, ce qu'il juge acceptable ou pas, de travailler pour éviter le surendettement aussi de ces populations les plus pauvres. Et donc, de fil en aiguille, de monter une activité qui n'existait pas et qui était une petite équipe à la fin. Je suis partie à travailler sur ces sujets-là. Et en fait, mon investissement était plein et entier. Et ce qui m'est dans ce parcours, comme de nombreuses personnes aujourd'hui, je suis arrivée à ce stade d'épuisement, qu'il soit physique, mental, émotionnel, psychique. Ou finalement, ce sentiment de ramer en permanence, en fait, à contre-courant, qui m'a épuisée. Et puis le fait aussi que j'ai 2 enfants en bas âge, dont un qui ne dormait pas encore la nuit. Et puis un certain nombre de maladies. Mais il y a un moment donné, en tout cas, où cette situation était devenue trop violente pour moi. Et j'ai su qu'il fallait un changement drastique. Ça a été un tournant fondamental de ma vie, à ce moment-là, en 2012-2013, où... il ne s'agissait pas de changer des petites choses, mais bien de prendre du recul sur tout ce que j'avais vécu pour aller faire des choix qui allaient amener de l'apaisement en profondeur. Et donc, on est parti sur Marseille, et c'est là que j'ai eu... Marseille a été la ville de ma renaissance, et j'ai pu vivre un certain nombre de transitions. Je suis devenue formatrice en innovation, en leadership, puis coach certifiée, puis hypnothérapeute clinicienne. En fait, la chose qui m'intéressait, c'était d'aller au plus profond de l'être humain et d'essayer de toucher du doigt le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de nous, où est-ce qu'on en est en termes d'écologie interne, et le lien que ça a dans ce que nous créons au quotidien dans notre vie. Et vous voyez, dans les organisations, on entend parler de 30% de souffrance au travail, donc qui dénote d'un évident manque d'écologie interne pour les salariés. Et mon intention, c'était de contribuer à prendre soin de ça, d'apporter des solutions tout au long de ce parcours.
Et toujours de trouver la juste place et le juste endroit pour accompagner ces transformations.
Voilà, et de faire ce lien, parce que l'idée, c'était à chaque fois de faire le lien dans l'accompagnement des projets sur le terrain. En Afrique, ou en Amérique latine ou Asie, comme je vous le disais. L'idée, c'est à chaque fois dans la dynamique collective qui va permettre de porter un projet de plusieurs millions d'euros, finalement, quelles conditions nous pouvons poser pour faire que ce collectif, ces différents interlocuteurs, qu'ils soient ministères, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient de la société civile, puissent ensemble trouver leur juste place et cultiver et prendre soin de ce lien entre finalement, qui ils sont, quelles sont leurs singularités, pourquoi ils sont là, quelles sont leurs profondes aspirations, mais aussi leurs craintes, leurs peurs, leurs colères. Et qui fait que quand on va se retrouver ensemble, on va pouvoir activer le plus haut potentiel de ce qu'on représente ensemble.
Une activatrice de potentiel. C'est très beau. Lorsque je vous ai rencontrée pour la première fois au cours d'une formation, vous nous avez partagé un moment fondateur de votre vie. C'est un discours auquel vous avez eu la chance d'assister en 2003 à New York. On écoute tout de suite l'extrait et on en parle après.
À ceux qui se demandent avec angoisse. Quand et comment nous allons céder à la guerre? Je voudrais dire que rien, à aucun moment, au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
Alors, c'est quoi ce discours? Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas reconnu, puisqu'il s'agit d'un discours assez, assez historique, racontez-nous ça.
Alors, c'est le discours qu'a réalisé Dominique de Villepin le 14 février 2003 dans l'enceinte du Conseil de sécurité à l'Organisation des Nations Unies à New York. Il s'agissait de prendre position quant à la possibilité d'une guerre en Irak, qui était soupçonnée alors de construire des armes de destruction massive. Et effectivement, c'est un discours qui m'a particulièrement marquée, que j'ai très envie, et je vous remercie pour l'opportunité de le partager aujourd'hui à travers ce podcast. Il a été fondateur pour moi. J'étais stagiaire à ce moment-là, j'avais 23 ans. On était une centaine de stagiaires. Je me revois encore ce jour-là, à chaque fois que je l'entends, je suis très émue. Parce que je me revois encore arriver en bus devant le siège de l'ONU. Je revois cette statue de bronze, vous savez, ce pistolet qui est noué, qui s'appelle d'ailleurs Non-Violence, c'est le nom de l'œuvre. Je me vois arriver, passer les filtres de sécurité. Et puis on était tous extrêmement excités d'une certaine manière parce qu'on savait que ce Conseil de sécurité devait aller arriver et que l'enjeu de la paix ou de la guerre en découlerait. Et donc, on était une centaine de stagiaires, on s'est tous préparés, on est allés dans une salle qui permettait une retransmission en direct de ce qui était en train de se passer dans la salle du conseil. Et je me rappelle de ce moment parce que ce qui a été très fort, c'est qu'on était 150 nationalités dans cette pièce. Et qu'au-delà des nationalités, au-delà des cultures, des sensibilités, au-delà des mots, ce que Dominique de Villepin nous a proposé à travers ce discours, c'est un moment qui nous a rassemblés. Qui nous a rassemblés dans cette intention d'aller dans une démarche pacifiée. Et donc, il y a eu ce discours. On était tous comme hypnotisés un petit peu à ce moment-là. Et puis, il y a eu ce point final. Et là, il y a eu quelques instants qui m'ont paru très longs, de silence absolu. Et puis, on s'est tous levés. On a applaudi ensemble pendant de longues minutes. C'est long d'applaudir pendant 2-3 minutes. Et donc, ce qui s'est passé là, pour moi, ce qui était fantastique, c'est que c'est comme si ce discours, ce moment-là, permettait de révéler ce qui avait toujours été là en moi. Il y avait quelque chose d'éblouissant dans ce discours, ce message que la violence n'est pas la solution. Il le dit, la violence, c'est toujours la sanction d'un échec. Et je pense que c'est un message que j'ai envie de partager. De vraiment, avant chaque action qui est possiblement génératrice de violence, de prendre le temps de réfléchir, de se connecter à soi, d'être à l'écoute de la violence à l'intérieur de nous qui appelle finalement à cet acte extérieur de violence. La violence engendre la violence. C'est une évidence. Et donc, à la source de chaque dynamique violente, il y a la violence ressentie par la personne qui en est à l'origine. Alors, je demande régulièrement dans mes interventions ou dans mes coachings, dans les sessions d'hypnothérapie ou dans les collectifs que j'accompagne, finalement, quelles sont les violences qui sont activées en vous en cet instant? Quelles sont les peurs activées en nous et qui demandent à être exprimées? Et si cette violence, si ces colères étaient entendues, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Qu'est-ce que vous feriez de différent? Dans le monde de l'écologie, aujourd'hui, il y a beaucoup de colère. Il y a la colère des activistes, dont je fais partie, qui sont en colère parce que les choses n'avancent pas assez vite, avec le sentiment de ne pas être entendu, avec le sentiment que les changements de comportement prennent trop de temps et on n'est même pas sûr d'y arriver. Eh bien, toutes ces colères, dans quelle mesure contribuent-elles à créer de la violence dans la société? Et donc, dans ce temple des Nations Unies dont nous parle Dominique de Villepin dans ce court extrait que vous avez partagé, Julia. Il nous dit « Nous sommes les gardiens. Nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. C'est une lourde responsabilité, il nous dit, et aussi un immense honneur qui est le nôtre. » Donc, l'invitation, c'est plutôt être gardien. Gardien d'un monde pacifié. Gardien d'un monde, d'une conscience de ce qui est juste pour soi et les autres. Et de pouvoir ainsi avancer de manière beaucoup plus éclairée et non en réaction à des colères à l'intérieur de nous. Et j'aimerais dire à ce moment-là, souvent on me répond « Oui, mais il y a des luttes, il faut lutter, le système est injuste, il faut... La colère est utile. » Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément entendu. Et ce que j'aime répondre à ce moment-là sur ce sujet-là, c'est que, en fait, oui, on peut être en lutte. C'est OK pour moi d'être en lutte, mais de ne pas être en lutte contre moi-même. Parce que dans ce cas-là, je perds la conscience de ce qui est juste pour soi et les autres.
Vous nous parlez justement de ce qui est juste, juste à un niveau individuel et aussi sociétal, finalement. Comment on peut créer ensemble, créer ensemble une société qui soit plus juste, pacifiée, harmonieuse. C'est un vaste projet, hein, quand même. Donc, comme vous êtes... une grande rêveuse, mais aussi une personne très concrète, et vous avez envie d'agir pour jouer votre rôle dans cette construction-là. Vous avez créé justement donc un projet qui s'appelle Inspire for Transitions. Désolée pour la prononciation. Vous allez nous expliquer le nom de cette structure. Et c'est une structure d'accompagnement et de formation pour, je vous cite, contribuer à l'expansion de dynamiques collectives inspirantes, joyeuses et écologiques dans le monde. C'est votre manière à vous de mettre en œuvre l'utopie que vous poursuivez ?
C'est la manière pour moi d'être pleinement centrée dans ce que j'ai envie d'apporter sur cette planète au cours de ma vie. J'ai choisi ce nom, effectivement, pas facile à prononcer en français, Inspire 4 Transitions, Inspire for Transitions. Pourquoi 4 Transitions ? Parce que j'accompagne des dynamiques collectives qui permettent d'amener des changements, des évolutions de modèles dans le champ de l'économie, dans le champ de l'écologie et dans le champ social. Et la quatrième transition, c'est d'amener l'humain à pouvoir évoluer, à pouvoir lui aussi se libérer des colères, de la violence en lui, pour être ensuite en action sur les trois autres transitions, mais à partir d'une posture pacifiée, en étant le gardien justement, une certaine conscience, d'une certaine sagesse.
Ouais. Et comment est né ce projet ? À quel moment ?
Alors, il est né en fin 2008, le moment où, après 14 années à l'Agence française de développement, j'ai décidé de quitter l'institution. C'était devenu pour moi compliqué de rester dans le système de cette organisation-là, comme probablement de nombreux autres systèmes. Car je sentais que finalement mon soirage qui fait partie de cette utopie dont je vous parlais, d'incarner qui nous sommes, eh bien ça devenait difficile pour moi d'incarner la personne que j'étais en train de devenir jour après jour, que ce que j'apportais était peut-être à la frontière créative de ce que le système souhaitait accepter.
Et donc cette structure, c'est une structure d'accompagnement, vous faites aussi des conférences, des formations, des formations individuelles et des formations collectives de facilitation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ?
Oui, j'accompagne en fait toute équipe qui souhaite se poser, qui souhaite se former, qui souhaite réactiver ou prendre soin en tout cas de l'intelligence collective de l'équipe, qui souhaite apprendre à poser les conditions d'émergence de ce plus haut potentiel dont on parlait, qui finalement... Un collectif, naturellement, a plutôt tendance à dysfonctionner. Il faut le dire, il y a de nombreux biais cognitifs, on en décompte plus de 150 aujourd'hui. Mmh. Et donc, c'est une véritable compétence d'arriver à poser ces conditions du vivre ensemble, du travail ensemble, de la collaboration, en permettant d'actionner ce plus haut potentiel et ensuite d'aller vers l'impact le plus juste pour chacun et pour tous. Et dans tous, j'entends également la planète, prendre soin de ce vivant autour de nous, de notre écosystème, et donc par résonance du vivant en nous. Et je crois qu'il y a un message, en tout cas une croyance que j'ai aujourd'hui, c'est que dans tout collectif et dans ceux que j'accompagne, c'est ce que je propose de tester, c'est de tester cette croyance qui raconte que d'être à l'écoute de son écologie intérieure dans un groupe, de cette justesse pour soi, sur un projet, dans une situation, de l'exprimer, et d'agir, de faire les choix correspondants, génère à tous les coups, dans tout ce que j'ai pu observer, de la justesse pour tous. Même si au début, il y a beaucoup de craintes, la crainte de se retirer d'un projet et d'abandonner son équipe, la crainte de se dire si je ne participe pas à cette réunion, je ne vais pas être solidaire de ma manager ou de mon manager. Il y a des craintes qui sont légitimes. Mais je vous propose de tester ça et de toujours le faire, quoi que vous fassiez dans vos choix, vos postures, dans l'intention de respecter votre écologie interne, hein, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de votre corps, de vos émotions, de le faire toujours en bienveillance, dans la communication non violente, etc.
C'est un choix qu'on peut faire finalement. Et en parlant de choix, vous êtes l'autrice d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Les 5 choix inspirants ». C'est un manuel donc inspiré et inspirant qui est à destination des utopistes, justement, de ceux qui changent le monde, et qui aussi vraiment vient nourrir le contenu de vos formations et de vos prises de parole. Vous y développez 5 thématiques, 5 choix qu'on peut faire en tant qu'individu pour prendre soin de chacune de nos relations dont on vient de parler, et de nos relations à nous-mêmes, aux autres et aux vivants au sein d'écosystèmes, et tendre vers la création de modèles de sociétés qui sont plus écologiques.
Ils sont inspirés de mes 15 années d'expérience professionnelle à travailler ensemble sur des projets à sens et à percevoir que j'aurais aimé avoir ces 5 choix en démarrant. J'aurais aimé parce qu'en fait, dans cette quête de la non-violence, dans ce qu'on va créer, et que du coup l'impact qu'on va créer sera lui aussi non-violent, et autrement dit contributif, il prendra soin, il va permettre de croître peut-être en qualité de relation à soi, en impact de différentes façons. Dans cette intention, ça revient, et si on ramène ça à nous, hein, c'est le soirage dont je vous parlais, mais c'est de dire qu'au sein d'un collectif, comment je cultive cette non-violence ? Comment finalement je pose un cadre sécurisé qui va permettre à chacun de prendre sa juste place ? Et au fil des années, des expériences, à un moment donné, j'ai beaucoup travaillé avec les 15 engagements du Conscious Leadership Group. Je faisais de nombreux ateliers au sein des équipes quand j'étais formatrice d'équipe pour travailler, réfléchir quelle peut être une charte collaborative au sein de notre équipe pour permettre de poser ce cadre-là, qui va nous permettre de prendre notre place et d'activer notre potentiel individuel et collectif. Et puis de fil en aiguille, il y avait 15 engagements. Puis moi, j'en suis arrivée à cette notion de me dire, en fait, tout est une histoire de choix. On fait des choix tous les jours, on fait des choix conscients, inconscients. Et en fait, chaque choix nous amène à être et à incarner. Parce qu'on a fait un choix, on est différent. Et à partir de cette posture-là, de cette différence que nous sommes devenus, nous sommes actualisés d'une certaine façon, et donc on peut percevoir ce qui est juste pour soi, à l'intérieur de nous. Donc la notion de choix est importante, je trouve. Et les 5 choix, il y a le choix de la qualité de présence, il y a le contre-choix aussi, ce sont des outils pédagogiques. Et donc le contre-choix permet aussi de réaliser que parfois on est souvent sous cette ligne. Ils sont séparés d'une ligne verte, d'une ligne écologique. Quand on est au-dessus de la ligne, on fait le choix inspirant, collaboratif. Et quand on est sous cette ligne, on est plutôt dans le contre-choix, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et c'est OK d'être dans les deux. On traverse dans la même journée, on va être au-dessus et en dessous de la ligne. C'est parfaitement OK, il n'y a aucun jugement de valeur. Simplement un outil. Et cet outil, eh ben, le premier choix, c'est celui de la qualité de présence. Si chacun, avant d'arriver à une réunion, simplement était attentif à est-ce qu'il est en qualité de présence à lui-même ? Ou est-ce qu'il est complètement pris mentalement dans des préoccupations qui fait qu'il arrive mais qu'il va passer toute la réunion sur son ordinateur ? Cette qualité de présence à soi permet d'être en qualité de présence aux autres. Donc c'est le premier choix. Le choix de l'écologie interne pour le second, qui est, là on en a déjà un petit peu parlé hein, aujourd'hui, mais ce choix d'être à l'écoute de ce qui s'active en soi à l'instant et de l'écouter, l'exprimer. En thérapie, vous savez, on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et que l'intention, c'est l'expression. Plus c'est exprimé, toujours de manière sécurisée et non violente, parfois violente, mais dans ce cas-là, dans un cadre sécurisé avec un professionnel. Mais en tout cas, ça permet de désactiver en soi l'émotion qui en est à la source. Et donc, ce choix de l'écologie interne, c'est d'oser faire ça. Ça demande du courage, de l'audace, mais je pense que vos auditeurs n'en manquent pas. Sur le troisième choix, nous avons le questionnement. Le questionnement, c'est de s'autoriser à sortir de « j'ai raison, tu as tort » dans une histoire. De changer complètement cette posture. Et simplement de se dire, dans ce qui est en train de se passer là, s'il y a un conflit qui émerge dans un collectif, simplement se dire, repasser dans la question. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce que ça raconte? Quels sont les besoins des personnes qui sont engagées dans la situation? Et si vous êtes vous-même la personne, par exemple, prise dans ce conflit-là, de vous dire, qu'est-ce que ça raconte pour moi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui s'est activé en moi dans le cadre de cette relation? Et de pouvoir changer son regard sur soi-même, sur la manière dont on vit les choses, de ne pas s'identifier à ce qu'on est en train de vivre, mais de s'autoriser à changer de point de vue, et donc de basculer plutôt dans la posture, dans le paradigme du questionnement, versus « j'ai raison, t'as tort », et finalement, d'amplifier, finalement, d'aller alimenter une situation négative au lieu de stopper les choses telles qu'elles sont, de s'en arrêter au fait, d'accueillir l'émotion, de l'exprimer, puis de s'autoriser à changer de regard. Donc, le quatrième choix, il est sur la juste responsabilité, les fondamentales. Il revient à la notion de soi-rage dont je vous ai parlé, c'est-à-dire je prends ma juste part de responsabilité dans ce qui m'arrive dans la vie. Je suis en gouvernance de moi-même. Et donc, tout simplement, dans une situation donnée, quelle est la juste part de responsabilité que j'ai envie de prendre? Est-ce que je vais plutôt me mettre en posture de victime et je prendrai un peu moins que ma juste part de responsabilité? Est-ce que je vais être plutôt dans la posture du sauveur et je vais avoir tendance à prendre un peu plus et du coup à infantiliser d'autres qui vont, eux, être dans la posture de victime? Et donc voilà, tout ça est expliqué dans le livre, mais d'aller explorer dans chaque situation relationnelle et donc dans chaque équipe, dans chaque dynamique, dans chaque collectif, quelle est ma juste posture, ma juste part de responsabilité. Et enfin, le cinquième choix qui rassemble les quatre premiers, où il s'agit d'incarner une forme d'écologie joyeuse, de quitter la violence en soi pour incarner cette écologie interne, c'est-à-dire qui vous êtes, ce qui est juste pour vous.
C'est vraiment très puissant, ces cinq choix. Je vous invite vraiment à lire cet ouvrage ou même vous en inspirer dans les différentes formations ou prises de parole d'Élodie. On parlait des sources d'inspiration aussi. Dans ce livre, on y retrouve des personnages importants de l'histoire, de la pensée justement, des gens qui ont fait des choix forts. Je pense à Gandhi, mais on parle aussi de Rosa Parks, on va en parler juste après avec l'effet Bloom. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont, ou d'autres figures comme ça qui vous ont inspiré ces choix?
Oui, je suis beaucoup Satish Kumar également, qui est un des fondateurs du Schumacher College en Angleterre, qui est un disciple de Gandhi hein, aussi, on va retrouver beaucoup de messages, mais qui l'incarne, il est là, Satish, donc... Il répond à nos questions et il est vraiment dans une approche non violente. Beaucoup chez lui, c'est qu'il y a une forme de simplicité élégante. D'ailleurs, c'est le titre de son dernier livre. Et quand on lui pose des questions, je me rappelle d'une réunion où on était à la Cité Fertile à Pantin, il y a 18 mois à peu près, il était là. Et puis, on avait beaucoup de questions autour de l'urgence. Il faut vraiment agir. Il faut agir et en fait, si on ne passe pas par la violence, les choses ne vont pas changer. Et c'est la fin de l'humanité, en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui, etc. Et à ce moment-là, il nous a simplement dit, il n'est pas trop tard. Time is now, il nous a dit en anglais. Donc, le moment, c'est maintenant. Et c'était très puissant parce qu'il nous a permis de quitter du coup nos inquiétudes, nos peurs. Il nous a permis de nous remettre dans l'instant présent. Et je crois que ce message, il est fondamental en fait. Et dans le choix 1 de la qualité de présence, c'est aussi à ça que je souhaite inviter. C'est-à-dire ne pas agir piloté par nos peurs, mais de se reconnecter à l'instant présent et à la puissance qu'on a. Et chaque instant qui passe, l'éternel instant présent, chaque instant est porteur en soi d'une créativité illimitée. Et donc d'être à l'écoute de ce que chaque instant nous apporte. Dans la théorie U d'Auto-Charmeur, on entend parler de se laisser inspirer par le futur émergent. Donc, c'est bien ce message-là que j'avais aussi envie de partager avec vous aujourd'hui.
Et finalement, cette posture d'être dans l'instant présent, je trouve qu'elle donne beaucoup de pouvoir. Elle donne beaucoup de pouvoir et d'espérance, en fait, pour se dire qu'on peut changer les choses. Ça me fait penser à l'effet Bloom. Vous en parlez dans votre livre. L'effet Bloom, c'est ce moment, en fait, où l'utopie, elle peut prendre corps dans un collectif. Portée par une minorité, en fait, qui est capable, à partir d'un certain seuil, à partir d'un certain nombre de personnes, d'enclencher et d'entraîner avec elle, cette minorité, en fait, tout un groupe. Et ça fait écho évidemment à des... On l'a vu à travers l'histoire, il y a eu plein de moments comme ça. Vous parlez notamment de Rosa Parks. Donc Rosa Parks, cette personne qui a décidé un jour de refuser de laisser sa place à un blanc dans un bus aux États-Unis pendant la ségrégation, et qui, on parle aussi des suffragettes, des abolitionnistes. À chaque fois, c'est une poignée d'hommes ou de femmes qui ont fait basculer en fait des sociétés à un moment donné. Et finalement, votre utopie à vous, est-ce que c'est pas de prendre soin et de faire grandir ces 20%, ce qu'on parle souvent dans les études scientifiques, ça a été étudié d'ailleurs, cet effet de bascule à l'intérieur d'un groupe. Il suffit qu'il y ait à peu près 20%, hein, c'est bien ça, Élodie, je parle sous votre contrôle, de personnes dans un groupe pour le faire basculer. Et donc vous, votre choix à vous, c'est de prendre soin de ces 20% et de les faire fleurir, de les faire germer, ces bloomers.
C'est mon intention, effectivement. Parce que vous voyez, il y a ce moment de bascule dont vous parlez, que moi je préfère appeler effet bloom, hein, et donc on a créé une formation avec Sylvain Mauger et Nathalie Decoq, qui s'appelle la formation donc bloom, pour se former à ce métier de faciliter le changement, la transition, jusqu'à ce moment-là. J'aime bien bloom parce que c'est un terme écologique, ça veut dire floraison en anglais, éclosion. Je trouve que ça rassemble, c'est plus sécurisant que bascule ou qu'effet seuil. Et ce que j'ai envie de dire, et le message, et à travers les formations, ce que je partage également, c'est qu'en fait, Rosa Parks, elle a été l'élément déclencheur, elle a été l'épiphénomène de ce moment d'éclosion. Mais ce qui est important, c'est les milliers de personnes avant, voire plus, qui ont refusé de céder leur place dans le bus. Elles ont contribué à densifier un mouvement collectif, une prise de conscience. Et elles vont du coup, au moment où Rosa Parks décide de refuser sa place, il y a ce moment d'éclosion. Et c'est là que ça bascule. Et il se trouvera qu'effectivement, Martin Luther King sera le jeune avocat qui va accompagner Rosa Parks, et il va jouer un rôle majeur dans cette lutte pour abolir les lois ségrégationnistes. Mais moi, j'ai envie, mon utopie... Mon envie, en tout cas, c'est d'accompagner aussi tous ceux qui ne seront pas des Rosa Parks, mais qui vont contribuer à ça. Et de dire que même si on ne voit pas les résultats immédiatement, vous contribuez de ce changement.
Merci, et je dois dire que c'est quelque chose qui résonne très fortement avec ce qu'on essaye de faire à la Turbine, de se dire que humblement, avec nos petits pas, on contribue justement à construire ces 20% et à peut-être provoquer cet effet bloom, on verra. En préparant cette interview, Élodie, j'ai repensé à Starhawk, cette activiste américaine, autrice d'essais, dont beaucoup d'essais d'ailleurs, elle a beaucoup écrit, dont le fondateur rêvait l'obscur, qu'elle a écrit dans les années 70, où elle développe la théorie du pouvoir du dedans comme puissant levier d'action collective transformatrice. Elle appelle ça le pouvoir du dedans, vous appelez ça l'écologie intérieure, mais en tout cas on parle de la même chose. Il y a aussi l'écho de cet extrait du livre de l'utopiste Sandrine Rudeau, Les Suspendus, dont je voulais vous lire juste un tout petit extrait. Merci. Poursuivons notre utopie d'être. Parfois nous reconnaissons une belle personne. Une belle personne a peut-être simplement vu la beauté qu'elle a en elle. Elle l'a reconnue et elle l'honore en la suivant. Et cela nous touche. Une personne si juste, si proche d'elle, c'est saisissant. Une telle personne fait du bien, rien qu'à la rencontrer. Le ou la suspendue est porté par l'utopie d'être. À un moment, on trouve ce pourquoi on se tient debout, ce qui rayonne en nous, ce qui nous rend essentiel, utile dans la grande marche du monde. Ce qui nous anime et ce qui est le plus précieux au monde est une même chose. Et vous, Élodie, c'est quoi votre utopie d'être? Vous nous avez déjà donné pas mal d'indices, mais quelle est la clé pour activer ce qui rayonne en vous et le partager avec les autres? Parce que vous êtes certainement une belle personne.
Je vous remercie, Julia. Merci beaucoup. J'accueille. Ce qui, moi, me permet ma clé pour... me connecter à moi et activer la plus belle version que je peux être, donc avec toutes les imperfections que j'ai, mais je crois que c'est vraiment ça qu'il faut accueillir. C'est qu'on pose l'intention, on fait du mieux qu'on peut et que tout est là. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute du sensible en moi, d'être à l'écoute des émotions, de ce que mon corps me raconte. Il me crée un mal de dos. Qu'est-ce qu'il veut faire par là? Je vais avoir une migraine. Qu'est-ce qu'elle vient raconter? D'être à l'écoute de ce sensible et aussi de mon intuition. Par intuition, j'entends depuis notre conception. On a vécu dans notre corps, dans nos cellules, des milliards et des milliards de scènes, des moments. Et tout ça, d'une certaine manière, il y a une forme de mémoire de ça en nous. Et moi, j'aime bien, j'aime cette définition de l'intuition. C'est de me dire, mon intuition, en fait, c'est le résultat de cet algorithme global dont je ne connais pas les détails, ni la programmation, de ces vécus-là. Et c'est cette petite voix qui, à un instant, va me souffler une réponse, va me souffler une intuition parce qu'elle sait, par ce vécu, ce qui est juste pour moi. Et j'aime faire confiance à ça. Et ça m'a toujours servi. Ça m'a permis de faire des choix puissants, parfois irrationnels, mais qui étaient les bons. Pour revenir à votre question sur l'écologie intérieure, et merci pour ces beaux textes que vous partagez là avec nous, c'est à travers l'hypnose, moi personnellement, que j'ai appris à parler à mon intuition. J'ai appris à communiquer avec elle, au quotidien. Je le fais discrètement, parce que... elle me guide aujourd'hui au quotidien, à tel point que je suis devenue extrêmement intuitive alors que j'étais extrêmement rationnelle. J'avais fait des études de mathématiques, d'économie, de finance. Et que cette intuition aujourd'hui est ma clé pour activer ce qui rayonne en moi. Et une de mes clés aussi, c'est de ne plus jamais faire de choix qui soit un choix qui ne soit non respectueux ou violent pour moi, du coup, par rapport à qui je suis. Et je pose l'intention, avec toutes mes imperfections, une fois de plus, d'essayer d'incarner cette non-violence, et donc, dont je vous parle à travers Gandhi, à travers le discours que nous avons écouté. Et donc, c'est important dans cette démarche de congruence, d'intégrité, aussi, de refuser de faire des choix qui vont aller à l'encontre de qui je suis vraiment. Et comme le dit très bien Sandrine Rudeau, trouver la beauté en nous, et ne plus lui infliger de choses négatives, violentes, mais d'en prendre soin, de la respecter. Je crois qu'effectivement, c'est en tout cas pour moi l'essence de mon alignement.
Merci, merci Élodie d'être une si belle personne et de nous partager avec tant de joie et d'harmonie votre utopie. Les liens vers la formation Bloom et toutes les formations et les contenus qui sont proposés par Inspire for Transitions et l'ouvrage d'Élodie, Les 5 choix, sont à retrouver dans la description de ce podcast. Retrouvez aussi nos autres contenus, articles et podcasts sur le site de La Turbine, vos plateformes d'écoute préférées. Et on se retrouve très bientôt pour un futur épisode. Au revoir Élodie, merci.
Oui, merci beaucoup Julia, merci à La Turbine, merci pour le prochain festival que vous animez, Utopie.0, qui est un festival surtout à ne pas manquer, à Sucé-sur-Erne le 25 septembre, je crois, hein, c'est ça. Merci pour toute l'inspiration que vous apportez.
Merci Élodie. Let's begin now. No, today, I just woke up and I said... Yes. Instead of waiting on a good day, waiting around through ups and downs, waiting on something to happen, I just said, we're gonna have a good day, and all my homies gonna ride today, that's right. And all these mommies look fly today, and all we wanna do is get by today, hey, we're gonna have a good day, and ain't nobody gotta cry today, cause ain't nobody gonna die today, save that drama for another day, hey, we're gonna have a good day. Red light fresh, new cologne on, feeling so good, change the colors to my phone. Orange Kool-Aid go good with Patron. Oh no, hell no, boy. It's still my ringtone, free car wash. Had to clean up the Dodge. Give back when I can, just playing my part. Church folks had a fish fry, mustard, hot sauce, light bread, French fries. Love for the big guy. Hit the park, boys showing off the hops. Nappy Roots on the radio, and you know what about last night? Hit the pick three, bought some Air Force Ones, four tall tees. Man, I'm loving BG.
Utopie.
Utopie. Pluriel. Utopie pluriel.
Utopie pluriel.
Utopie pluriel.
Utopie Plurielle, le podcast de La Turbine.
La Turbine.
La Turbine.